Moi, je choisis le livre qui s'appelle Pourquoi je ne suis pas mon cerveau de Marcus Gabriel. Pourquoi je choisis ce livre? En fait, tout de suite parce que je suis content qu'un ouvrage comme ça, il existe dans cette collection. C'est pas commun de trouver des Marcus Gabriel dans toutes les bibliothèques et à l'espace Multimédia Garner, on le trouve. Je suis très content. C'est un très grand philosophe que j'admire. J'admire parce que il a ouvert la voie à cette courant qui s'appelle le nouveau réalisme. J'adhère énormément à cette idée que on a. C'est pas une idée. C'est vraiment une toute une conception de ces nouveaux rapports avec la réalité. C'est-à-dire que moi, je suis axé vraiment à la réalité. D'une certaine manière, la métaphysique nous a dit bah, la réalité, elle est dehors. On ne peut pas savoir ce que c'est. Parce que déjà, les sens, ils nous trompent. Mais finalement, tout ça nous amène à une sorte de structuralisme dans lesquels tout est fait par la pensée, tout est de cette structure de la pensée. Et c'est ça qui construit notre réalité. Finalement, on se rend compte que c'est pas ça. Hein. Ce qu'on peut vraiment déduire de ce rapport avec la réalité, c'est que on a accès, ce que je touche, il est réel. Toutes ces réalités, elle est là, elle nous entoure comme ces mondes qui sont vraiment des champs d'essence enchâssés. Et les champs d'essence enchâssés, c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier et comprendre. Moi, je suis très content parce que déjà, avec pourquoi je ne suis pas mon cerveau, et je me rends compte à quel point on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est moi? De quoi je suis fait à l'intérieur, dans ma pensée, dans mes pulsations, dans mes sentiments. Et pour tout ça, il faut aller vraiment à l'intérieur de soi-même et scruter, chercher, explorer, aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne savait pas avant qu'elle existait. Et en fait, on peut dire voilà, moi j'existe vraiment parce que c'est ma conscience, mais c'est pas pour tomber dans une sorte de rationalisme cartésien qui dit voilà, je pense donc j'existe, mais c'est au-delà. C'est au-delà parce que en fait, si on se rend compte beaucoup de choses par rapport à tout ce qu'on peut appeler, comme Marcus Garvey il l'a dit hein, dans un de ses ouvrages, le monde, cette idée de tous ces domaines, bah en fait, ça peut pas exister. C'est pas possible que ça existe un domaine de tous les domaines qui va englober toutes les idées et qui va trouver cette idée totalitaire. Et c'est ce qui actuellement les pays, les politiques internationaux, on va dire, ils essayent de faire par rapport à la recherche neuroscientifique. Ils pensent que si on étudie le cerveau à un point très profond, avec des instruments très technologiques, ce que ça a donné les cas récemment avec tout ce qui est l'imagerie scientifique et tout ce qui est les appareils de résonance électromagnétique qui te permet de voir tout là. On essaie de trouver l'origine de ce qu'on est. C'est comme si on serrait à l'intérieur de notre cerveau et que dans notre cerveau, finalement, si on arrive à voir loin, 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 on va trouver la personne, l'être. Et en fait, Marc et Gabriel, ils nous disent, bah, attention à ce genre de pensées, il faut faire vraiment attention. C'est pas par la science. La science, elle a beaucoup de capacités, elle nous a donné vraiment beaucoup de pistes, mais au-delà de tous ces pistes, il existe quelque chose vraiment de très important. C'est que, en fait, c'est ce qui est, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est moi, c'est je. c'est pareil, c'est comme tous les ces domaines des sens, ces champs des sens enchâssés. Moi, je suis un agglomérat, une compilation. Ce que je peux dire, c'est que ça va être jamais moi comme quelque chose de défini. Ça va être quelque chose qui interagit complètement, tout le temps, à chaque seconde. Il y a une interaction. Interaction avec la lumière, qui est déjà un champ des sens très important, comme ce qu'on a vu dans cette exposition. C'est un champ des sens qui nous permet d'aller voir les détails, d'aller percevoir quelque chose qui est très fin. Ce qu'il appelle dans cet ouvrage la finesse des grands. La finesse des grands, elle est dans les arts, mais elle est aussi dans la science. Elle est dans tous les types de sciences aussi qui explorent l'esprit humain. La finesse des grands nous permet de voir, par exemple, dans les cinémas, jusqu'à quel point la pellicule est bien fine, et c'est ces grands qui commencent à donner la qualité, la chose. Donc, passer de ces moments qui sont bourdes, qui sont grossiers, à une finesse des grands, c'est quand l'esprit il s'apaise et il se rend compte que c'est impossible qu'il soit juste son cerveau. L'esprit, il va être partout. Si on les voit un peu comme ce que Marcus Garvey peut nous expliquer par rapport à l'art, c'est que nous, consciemment, on est comme les œuvres d'art, c'est des événements. Qu'est-ce qui est finalement une œuvre d'art? Une œuvre d'art, est-ce que c'est une matière? Non, c'est pas une matière. Est-ce que c'est immatériel? Oui, c'est peut-être immatériel. Mais avant tout, si c'est pas matériel, si, qu'est-ce que c'est? Bah, par exemple, Deleuze et d'autres philosophes, ils sont vraiment d'accord avec ces questions. C'est qu'une œuvre d'art, elle est avant tout un événement. C'est quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui surgit. Et il doit surgir quelque part. C'est pas possible qu'il surgisse nulle part. C'est pas possible. Et c'est ça, par exemple, pourquoi Marcus Garvey, il dit, attention, le monde aussi n'existe pas. Ça, c'est un faux concept. Ça, il faut oublier, hein. Il n'y a pas un domaine qui va englober tous les domaines. Parce que chaque domaine, chaque monde, chaque chose, c'est une interaction. Une interaction qui va faire que les choses, ils existent, ils apparaissent quelque part. Parce qu'on peut les étudier, là, on peut dire, voilà, il y a des ordinateurs. Tout à l'heure, on était dans les cadres d'un repas, un très ami, une exposition, quelque chose. Chaque chose, elle peut être analysée, étudiée par une science différente qui va avoir un complément avec les autres sciences. Les cadres d'un repas, il peut être mélangé à les cadres de la biologie, par exemple, parce qu'on mange de la vie et tout. Mais, et même, il y a quelque chose que j'adore de cet auteur. Il nous parle il utilise des exercices intellectuels. Et ces exercices intellectuels, ils permettent de dire, voilà, c'est de la philosophie, c'est très lourd, parce que tu me dis, ah, voilà, tu m'emmènes quelque part, mais tu dis, il t'explique comment, si tu fais l'imagination, si tu utilises l'imagination, cette capacité de générer des images, tu peux rentrer dans des raisonnements que tu ne croyais pas que c'était possible. Par exemple, ici, il te dit, voilà, dans le cadre d'un restaurant, il y a déjà le monde culinaire, ces domaines, ces champs de sens qui étudient ces choses-là. Il y a aussi les amis, c'est la sociologie, il y a la matière, il y a tout ça, tout ça c'est enchâssé, tous ces domaines, ces champs de sens. Mais dans les coins de restaurant, il y a une araignée qui entend de faire sa toile. Et elle est là, elle est derrière un tiroir, un meuble perdu. Et personne n'est conscient que ça existe. Tout le monde va manger, tout le monde va être tranquille. C'est les cadres, c'est parler, tout ça. Et pour autant, cette araignée, elle est en train de faire ses nids, elle va faire pondre ses œufs, tout ça, c'est son monde. Elle est enchâssée d'une certaine manière avec les nôtres, sans qu'on se rend pas compte. Et là, ça fait, juste pour finir, ça fait que là, tous ces mondes enchâssés, ça crée cette hétérogénéité. de la vie, de l'existence, de ces choses dans lesquelles je peux être vraiment libre. Déjà parce que je suis pas mon cerveau. Et déjà parce que ce qu'il faut prendre, c'est la liberté. Il faut la liberté de la pensée. Pour ça, il faut lire ce genre de voix. Je suis très content que vous avez cette voix-là ici.